les chaînes.
88.4 Radio Galère.
Le 20h contre tous les enfants.
Voilà, le 17 décembre 2010, un Tunisien de 26 ans, Mohamed Bouazizi, se suicidait par le feu devant la préfecture de Sidi Bouzid, une petite ville de 40 000 habitants du centre de la Tunisie. L'événement n'a fait la une d'aucun grand média. Un vendeur ambulant s'était vu confisquer sa marchandise par la police et gifler. Il s'était tué par désespoir. Rien de notable. Ça aurait pu se passer n'importe où, en France ou en Europe, dans l'indifférence générale. Jusqu'au milieu du XXe siècle, en Europe, quelques désespérés s'attaquaient parfois à tel ou tel représentant du pouvoir. Au XXIe siècle, ils s'attaquent partout à eux-mêmes. Mohamed Bouazizi vivait dans un quartier à Ennour Garbi, un bidonville excentré de Sidi Bouzid. Voilà, dans la joie et bonne humeur, on commence. Donc, une spéciale dédicace à Mohamed. On pense à Georges Ibrahim Abdallah.
Et spéciale dédicace aussi aux 6 incarcérés pour l'incendie de la prison pour sans-papiers de Marseille.
Le Canet.
Ainsi que pour l'évadé.
Il court toujours. Donc voilà, toujours sur Radio Galère 88.4, une émission tout en petits morceaux.
Ouais, et on va parler un peu de plein de choses, on va faire un peu d'actualité et beaucoup de hors-sujet. Et pour commencer, ben, on va faire un petit agenda de ce qui se passe à la Chrysalide, qui est une maison qui a ouvert maintenant il y a 3 semaines. Et, qui
fait un mois et demi.
On ne va pas passer.
Et qui se situe au 14 rue Bénédicte, c'est entre Longchamp et La Friche. Et donc tous les jours, il y a à peu près des rendez-vous. Donc demain à 18h, il y a l'AG Antilopsie.
Et donc à la Chrysalide, et mercredi à 20h, il y a une projection. Je ne connais pas le film. Je connais pas le film, voilà, mais donc, tous les mercredis, projection. Donc c'est tous les... Non, c'est à 20h, tous les mercredis, avec une espèce d'auberge espagnole aussi. Donc on peut amener son petite bouteille et son petit manger, histoire de discuter après ce qu'on a vu tous ensemble. Et le rendez-vous suivant, c'est jeudi à 14h devant le tribunal, parce que donc, la semaine dernière, la Chrysalide passait en... Comment on appelle ça ? En référé, c'est ça ?
En
jugement, ouais, en procès. Pour se faire expulser, et donc il y a eu obtention d'un houleux, d'un report. Donc
un houleux report,
qui se passera donc jeudi à 14h devant le tribunal. Et on appelle toute la solidarité possible et le nombre de plus de gens possible
et
pour venir y assister. Ouais.
Au niveau de, au vu de la houle du premier procès, nous espérons être plein de marins à tenir la barre ce jour-là.
Et voilà, et bon, pour continuer sur les rendez-vous du jeudi, donc après...
Sinon, ouais, toujours pour préciser, donc c'est au palais de justice, c'est au tribunal d'instance, le joli palais là, et voilà, c'est entrée libre.
Voilà, et à 19h, donc toujours la Chrysalide, il y aura une réunion pour organiser la solidarité avec les révoltés du CRA, donc ça c'est le jeudi à 19h, voilà.
Pour ceux qui ne savent pas, le CRA c'est centre de rétention.
Ouais. Administratif. ICA, CRA, mais...
Prison pour sans papier, donc...
Ouais, donc ce CRA qui a cramé, c'était à peu près il y a 2 semaines. C'était suite à un incendie dans une cellule qui a démarré par un feu de matelas. Suite à ça, il y a les 52 retenus qui ont été transférés à l'hôpital d'abord.
Ouais. Juste pour préciser, contrairement à ce qu'on avait dit, le CRA n'a pas été entièrement détruit, quoi, comme on avait dit en fait. Il a été
mis hors service, voilà. Donc, suite à cet incendie, les 52 retenus ont été envoyés à l'hôpital. Il y en a un qui a réussi à s'évader. Donc, pour celui-là, on lui souhaite une bonne cavale. Ensuite, ils ont été transférés à Nîmes. Puis, ils sont passés devant le juge des libertés et de la détention, qui en a libéré moins d'une dizaine, contrairement à ce qui se passe normalement quand il y a des transferts collectifs. Là, c'était une volonté de la préfecture de montrer qu'un incendie, ça ne permettait plus d'être libéré.
Ouais, malgré tous les vices de procédure existants dans tous les dossiers, quoi.
Et donc, du coup, les 42 autres, ils sont toujours au CRA de Nîmes et ils attendent leur expulsion. Du coup, il y a un petit soutien qui va s'organiser pour empêcher les expulsions.
Parce qu'effectivement, il ne nous reste plus que ça, en fait, pour obtenir quelques libérations.
une mobilisation à l'aéroport. Il faut savoir qu'en fait, quand une personne est expulsée, il peut, en bas de l'avion, refuser d'être embarqué. Ça, c'est la loi. Dans les faits, c'est très rare que les flics acceptent de le remettre au centre de rétention plutôt que de le monter dans l'avion. Ils le forcent à monter dans l'avion par la force, quoi. Et à ce moment-là, bah, il n'y a plus que le commandant de bord qui, étant le seul chef à bord, peut décider s'il considère que la présence d'un expulsé dans son avion met en péril son vol. Il peut décider donc de le faire redescendre. Sauf que bien sûr, l'État fait pression sur les compagnies aériennes pour que ça se passe pas. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Venir en petit groupe ou plus nombreux, parler avec les passagers 2 heures avant, au moment de l'enregistrement, leur expliquer qu'il va y avoir une personne qui va être expulsée sur leur vol, et leur dire bah, qu'ils peuvent foutre la pression au commandant de bord pour le faire redescendre, notamment en refusant de s'asseoir ou en refusant de fermer leur ceinture. Du coup, bah, voilà, on voudrait organiser ça sur Marseille. Comme on a les infos qu'à la dernière minute sur les expulsions, on a décidé que ça passerait par la liste d'alerte SMS de 1000 Babord. On peut s'y inscrire en allant sur le site de 1000 Babord. Il y a un petit encart à gauche qui dit « Abonnez-vous au réseau d'alerte SMS ». Et à partir de là, bah, on va organiser tout ça.
Et donc ça, c'est ce qui concerne les gens qui sont encore incarcérés au CRA. Et maintenant, on va passer aux 6 inculpés. Donc il y a 6 personnes qui ont été écrouées au Baumettes et ils sont accusés d'avoir foutu le feu au centre de rétention. Il y a un comité de soutien qui est en train de s'organiser. Pour l'instant, il y a besoin d'argent pour payer tous les frais de justice. Il y a une réunion, donc je le répète, jeudi à 19h à la Chrysalide. Après, bah, pourquoi il y a ce comité de soutien qui est en train de se monter ? Ben, tout simplement, déjà, dans un premier temps, pour pas que cette révolte, elle reste étouffée dans le silence carcéral. Ensuite, bah, qu'il soit coupable ou innocent, bon, bah, ça, on s'en fout un peu.
En ce qui
les concerne. En fait, l'idée, c'est un peu de soutenir des gens qu'on a enfermés parce qu'ils étaient potentiellement dangereux. Et donc, l'idée, bah, c'est que l'État, il veut... punir des gens qui pourraient se révolter contre l'enfant.
Et qui risquent de les saquer, rien que pour l'image d'une prison qui a brûlé, comme ça s'est passé à Vincennes. Enfin, en tout cas, ce que je connais par rapport à Vincennes, où il s'est passé la même histoire il y a trois ans,
2008. Juin 2008.
Voilà, 2008. Et où donc, les inculpés, ceux qui étaient accusés d'avoir mis le feu, ont pris les peines les plus lourdes, donc de cet enferme pour la plus lourde. Et à chaque fois, bon, en dégradant, mais ils ont pris le maximum que ce qu'ils pouvaient prendre. Beaucoup de prison, quoi. Comme à Bordeaux aussi, apparemment. Je connaissais pas l'histoire de Bordeaux. Ouais.
Bah justement, à Bordeaux, apparemment, ils ont pris beaucoup plus. Et il n'y a pas eu de soutien à Bordeaux. Alors, on ne sait jamais hein, si c'est grâce ou par le manque de soutien que les peines, elles sont plus ou moins lourdes. Mais en tout cas, là, c'est quand même assez clair, quoi. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a ce comité de soutien qui se met en route. C'est aussi faire du bruit pour aussi foutre la pression et essayer qu'ils mangent le moins, quoi.
Et puis, faut pas oublier que l'incendie, bah, ça a permis la fermeture du centre de rétention pendant un bout de temps. Pour l'instant, sur Marseille, donc, il n'y a plus de centre de rétention, ce qui veut dire qu'il va y avoir nettement moins d'expulsions de sans-papiers sur Marseille. En plus, ces derniers temps, il y en avait beaucoup, des rafles de sans-papiers. Donc, c'est un peu une bouffée d'air. Et puis, peut-être expliquer aussi que bah, si on veut lutter contre l'enfermement et la gestion de l'immigration, bah, c'est logique de les soutenir. Les politiques migratoires, c'est le produit d'un État qui sert de l'idéologie raciste et d'une post-colonialiste pour avoir à sa disposition une main-d'œuvre corvéable à merci. Et l'enfermement des sans-papiers, c'est un outil qui permet à l'État de fragiliser encore plus les sans-papiers et de leur faire fermer leur gueule.
Après, il y a un autre truc aussi, c'est que le centre de rétention de Marseille a déjà été fermé. Bon, bah là, c'était pour un truc indépendant de toute volonté. C'était pour la légionellose. Hein. Ce n'était pas un acte volontaire de personnes en lutte, dans l'espoir de se faire libérer. Et c'était. Enfin, là, c'est. Enfin, en l'occurrence, là, c'est un acte de personnes en lutte dans l'espoir de se faire libérer. Et comme certains auraient tendance à vouloir le traduire par un acte de désespoir, bah, c'est pas le cas, quoi. Et cet incendie du centre de rétention de Marseille, c'est pas un cas isolé. Ça fait déjà plusieurs années qu'un peu partout en Europe et aux frontières de l'Europe, il y a des luttes dans tous les centres de rétention. On ne va pas toutes les énumérer, mais déjà, depuis un mois, il y en a à peu près une tous les trois jours, quoi. Donc, le 13 février, au centre 127 bis à Bruxelles, il y a eu une tentative d'évasion qui a échoué. Les retenus se sont affrontés avec les gardiens. Pendant une semaine, la tension ne s'est pas relâchée. Le 20 février, les retenus se mutinent alors que se tient un rassemblement solidaire. Certains brisent des vitres, incendient des cellules et montent sur le toit. L'un d'eux parvient à s'évader en franchissant les grillages. Le soir, l'émeute reprend et deux ailes partent en fumée. Le centre est inutilisable depuis.
Le 13 février, éclate aussi une émeute dans le centre de rétention de Brindisi, Italie. Les sans-papiers saccagent une partie du centre, brûlent les matelas, défoncent les murs, puis une partie du grillage. Et 27 d'entre eux parviennent à s'évader.
Le 21 février, il y a une grève de la faim qui a démarré au centre de rétention de Vincennes. Quatre jours après, il y a eu des tentatives d'incendie qui sont succédées. Les retenus se battent avec les flics et manifestent dans la cour au cri de « liberté ».
Le 23 février, 200 papiers tentent de s'évader dans les centres de Turin, puis de Bari.
Le 24, le lendemain, dans le centre de Trapani, toujours en Italie, c'est des retenus qui saccagent le mobilier.
Le 27 février, après un mois de révolte, le centre de Gradisca, en Italie, est totalement en ruine. En moins d'une semaine, les 16 cellules collectives ont toutes été incendiées de l'intérieur, les unes après les autres.
Le même jour, toujours en Italie, des retenus du centre de Modena brûlent les matelas des chambres avant de les balancer avec le reste du mobilier dans la cour.
Le 28 février, 4 des 5 cellules collectives d'une aile du centre de Turin en Italie sont incendiées. Tout ce qui tombe sous la main des retenus en colère est détruit.
Et le 9 mars, enfin, le centre de rétention de Marseille a cramé. Voilà, tout ça, ça s'inclut dans...
Sans oublier qu'il y a quelques jours, le 17 mars, là où ont été transférés donc, les retenus de feu Cracané, donc à Nîmes, il y a eu un départ de feu.
Voilà, donc ça c'était la petite brève pour parler de ce qui s'était passé à Marseille. On poursuit avec une petite musique. On July the 2nd, 1953, I was serving time in Tehachapi. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow and I heard somebody yell. There's a riot going on.
Up in cell block number 4, spread like fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun, bang, 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 trying to stop my fun, but there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. With your hands up in the air, you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Two gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, 'cause man, this is lit. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. State militia to help them win the fight. Drove up to the prison in the middle of the night. Each and every trooper, he looked so tall and fine. All the chicks went crazy up in cell block number 9. Now there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9.
Donc, pour continuer sur les petites brèves, vous parlez d'une petite brève, d'une bonne brève même, d'un mouvement de révolte qui s'est passé à la prison de Saint-Quentin en Isère, donc le 24 février dernier, donc c'était il y a un mois. Et justement, les infos ne sont pas arrivées sur le moment et on a reçu une petite lettre, enfin un papier qui est sorti, par rapport à des gens qui sont dans lutte anticarcérale, dans des émissions anticarcérales vers Saint-Étienne et Valence, qui sont partis là-bas justement pour essayer d'avoir un peu plus de renseignements, parce que tout ce que les médias nous ont appris donc officiellement sur la mutinerie qui a lieu dans ce centre pénitentiaire, c'était que le point de vue des syndicats de surveillants, donc comme ce qui se passe à chaque fois, et en tout cas c'est jamais celui des prisonniers révoltés, donc des principaux concernés. Donc les animateurs d'émissions de radio anticarcérale de Saint-Étienne et Valence sont allés devant la prison pour chercher d'autres sons de cloche. Alors, ils nous avaient dit qu'il y a une quarantaine de détenus qui avaient refusé de remonter en cellule après la promenade, et qu'ils avaient détruit les grillages, et qu'en s'en était suivi une descente des iris. Alors, les iris, c'est une espèce de CRS high-tech, tip-top, qui interviennent dans les prisons pendant quand il y a des révoltes et des émeutes, qui sont un peu des matons cagoulés.
Et suréquipés,
et voilà, qu'ils étaient intervenus en grand nombre. Seulement, ça s'est passé à l'heure des parloirs, donc bon, il y a beaucoup de monde qui était venu visiter un proche, ou qui était devant la prison pour attendre le parloir. Et elles disent avoir entendu des tirs à l'intérieur et vu deux ambulances entrer et sortir, ainsi qu'une centaine de gendarmes qui seraient intervenus. Alors la version officielle, c'est bien celle des syndicats de surveillants, l'administration pénitentiaire, et que cette révolte, elle a été causée par la nourriture qui est servie par la Sodexo. Alors la Sodexo, c'est quoi ? C'est cette entreprise privée qui gère la nourriture servie aux prisonniers, donc depuis janvier, et apparemment ils se plaignaient de viande avariée, de rupture de la chaîne du froid, enfin bref, d'une bouffe de merde. Et en l'occurrence, la Sodexo, c'est aussi ceux qui gèrent les hôpitaux et les écoles, quoi. Voilà. Donc ça, c'était la version officielle. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que une semaine avant que ça pète dans la tôle, il y a donc un des syndicats majoritaires de Maton, donc l'UFAP, qui avait publié deux communiqués qui dénonçaient les tensions internes à la prison, comme toujours, bien sûr, imputées uniquement à la violence des détenus. Et il demandait qu'un grand nombre de prisonniers soient transférés afin de rétablir l'ordre, et sollicitait le soutien des autorités et la présence des iris, toujours eux, pour parer à l'éventualité d'une rébellion organisée par la population pénale et ainsi sécuriser le personnel. Et il dénonçait aussi, donc deuxième communiqué, donc toujours une semaine avant la révolte, les problèmes donc, qui étaient liés à la gestion de la bouffe qui arrivait dégueulasse, quoi. Alors, on aurait pu croire qu'ils dénonçaient cela par compassion pour les détenus, mais non, faut pas rêver. Ils craignaient juste que ces derniers, qui sont donc exaspérés, ne se rebellent et que cela pose un problème de sécurité, pour leur propre, bien sûr, sécurité, quoi. Donc, une fois de plus, les surveillants dénoncent ce qui se passe en prison uniquement du point de vue de la sécurité, de leur sécurité. Ils se plaignent et demandent uniquement des moyens répressifs. Ils ont quasiment le monopole de la parole au sujet de la prison et en donnent une version très subjective. Alors on ne sait pas précisément ce qui a déclenché ni comment s'est déroulée la mutinerie, mais en tout cas, alors je cite, hein, mais nous savons que les prisonniers ont mille raisons de se révolter et que leurs paroles ne circulent quasiment pas à l'extérieur et que le moindre mouvement de protestation en prison est très durement réprimé. Donc eux ont décidé d'aller devant pour essayer de glaner quelques infos, et alors là ils ont appris des trucs qui tellement n'étaient pas passés dans les médias officiels, et en tout cas dans les grandes lignes. C'est que, au début, on parlait de dizaines de prisonniers, donc de la maison d'arrêt, qui avaient refusé de rentrer en cellule à 11h à la fin de la promenade. Et que suite à ce blocage, en fait, il y a eu 30 à 40 transferts. Donc les transferts, c'est quand les prisonniers sont changés de prison pour casser un mouvement, pour casser une révolte, une solidarité, un effet de lutte collective. Dont certains ont même été balancés jusque dans les prisons en région parisienne, donc à quelques centaines de bornes de là où ils sont, et là où leurs familles peuvent les visiter, en tout cas plus facilement.
Et en plus, ils ont été probablement mis à l'isolement.
On y va justement. Ce qui est marrant, c'est voilà, tout le monde. Alors voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été placés au mitard. Donc les mitards, c'est les cellules, quartier disciplinaire. Donc ce que tu disais là, l'isolement. Donc ils ont rempli carrément toutes les cellules du mitard, et ce qui fait une trentaine de personnes ainsi punies. Donc voilà, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est pas besoin d'être un fin mathématicien pour constater que 60 ou 70 personnes ont été sanctionnées, alors que les médias parlaient de 30 prisonniers qui bloquaient la cour. Donc une autre manière un peu d'essayer de modérer une lutte qui avait beaucoup plus d'ampleur que ce qu'ils avaient beau dire dans les journaux, quoi.
Ouais, les chiffres, c'est selon la police, hein, bien sûr.
Ouais, comme d'hab. Et l'autre sanction collective, c'est que de nombreuses personnes, on leur a rapporté que sur au moins un étage entier, et donc probablement toute la prison, parce que ça c'est pareil, c'est un flou autour de ça, les toileurs ont été enfermés en cellule pendant au minimum 4 jours, sans aucune sortie, aucune promenade, rien. De quoi de bien donc péter un plomb. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de punition collective, donc dès qu'il se passe une révolte en prison, elle touche tous les prisonniers, même ceux qui n'y ont pas participé. Donc c'est l'exemple. Et c'est une technique systématique de répression en prison. Et même les détenus du centre de semi-liberté, parce qu'alors dans cette prison, en fait, voilà, c'est un centre pénitentiaire, donc il y a une maison d'arrêt, il y a un centre de semi-liberté, et il y a un centre de détention, qui correspond à peu près aux longueurs de peine et à l'état actuel de bref, peu importe. Donc même les détenus du centre de liberté qui, eux, sont à l'écart, n'ont absolument pas participé, eux aussi ont été enfermés en cellule tout le week-end. Et le prétexte qui a été fourni, c'est le manque de personnel. Voilà, donc un détenu en semi-liberté nous leur a fait remarquer que pourtant, depuis la privatisation d'une grande partie des services quotidiens dans la prison, les surveillants sont aussi nombreux alors qu'ils ont moins de travail. Ils ne gèrent quasiment plus la surveillance que la surveillance et la sécurité. C'est des propos qui sont rapportés, quoi. Et alors ensuite, bien sûr, il y a le déploiement d'Iris qui a été, de gendarmes qui a été assez énorme. Et alors donc, ça a donné suite fatalement à des tirs de flashball, des détenus tabassés avec au moins un bras cassé. Donc ça, c'est le seul rapport officiel qui en sort. On imagine bien dans quel état ont pu sortir les révoltés, quoi. Et voilà, alors ils n'arrivent toujours pas à savoir s'il y a des procès qui sont prévus, ce qui devrait pourtant être le cas, parce que même en prison, quand il y a une révolte, on est toujours poursuivi. Donc ça peut se cumuler aux peines déjà subies. Et voilà, sinon, alors voilà, plusieurs personnes qui ont confirmé la version officielle. Donc la cause du mécontentement, c'était la bouffe de merde servie par la Sodexo. Donc ça dure ça depuis très longtemps. Mais aussi expliquer que la veille, il y avait une fouille de cellules qui avait eu lieu à 21h. Alors ce qui semble peu réglementaire et que, surtout qui avait énervé, passablement énervé les détenus, quoi. Ce qui a poussé des dizaines de prisonniers donc à décider de protester en s'organisant pour le lendemain le blocage de la promenade. Et tout serait parti de là, voilà, plus l'espèce de petit vice qui se passe un peu tous les jours entre les détenus et les taulards, ce qui se passe dans toutes les prisons, quoi.
Entre les détenus et les matons.
Voilà.
Voilà, avec toujours la belle excuse que, et c'est ceux qui parlent de surpopulation qui ont rempli ces prisons à craquer, et comme évidemment ils prennent le problème à l'envers, pour nous ce qu'il faut c'est vider les prisons et non pas en construire des nouvelles comme c'est au programme.
Exactement.
Et pour alors, ça, il y a peut-être les caisses de l'État s'appelleront police, les voitures du peuple s'appelleront bélier.
Ouais. On continue avec une petite musique.
Musica maestro.
Any of the guards are still speaking to me. Could I have a glass of water? I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. Good, do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.
C'est Johnny Cash, hein, c'est
may all the world forget
Johnny.
You ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
Yeah.
la bicyclette est mal foutue, il faut aller dérouiller le fabricant. Le mec qui s'en prendrait à la bécane et qui lui filerait des coups de savate dans les rayons, sous prétexte que le frein ne fonctionne pas, personne ne le trouverait bien normal. Alors, c'est pareil pour tout. Des gens, il y en a des tas qui déraillent, qui dérapent. Tout doucement ou tout à coup, les voilà qui s'écartent de l'avenue de la légalité, ou pire encore, du boulevard de la morale d'État. Et les voici fonçant à toute berzingue sur le terrain vague de la violence, avec un taux d'alcoolémie qui leur suffira pour finir en tôle, même s'il n'a pas suffi à leur faire oublier la merde qui les entoure. Mais toujours, comme antécédent à ce voyage hors la loi, il y a la violence qu'ils ont subie. Qu'ils ont subie parce qu'elle est la conséquence des lois. La violence de l'impuissance. La violence de l'éducation octroyée par les agents d'une société décomposée, famille, école et autres autorités consacrées. La violence d'une vie passée à bosser comme un chien pour rien, d'une vie passée à ramper, à être privé de son temps et de la possibilité de le partager, de sa pensée et de la possibilité de la partager, d'une vie passée à ne même plus pouvoir rêver d'une autre vie. La violence même de l'anticipation de cette vie de merde, celle de la peur que ça continue comme ça jusqu'à... Pour rester dans le droit chemin, il faut savoir prendre des coups ou regarder n'importe qui en prendre sans ouvrir sa gueule. Alors, la route se sépare en deux. Garder cette violence en soi jusqu'à l'implosion ou l'évacuer. Puisque répondre, c'est de toute façon dévier, comment procéder à l'évacuation de la violence usée? Il y a plusieurs types de déviation. Il y en a qui empruntent la voie souterraine, celle qui reste secrète, presque invisible. Le tabassage relatif des gosses, le mépris insidieux pour l'étranger, l'humiliation quotidienne de la femme de ménage. Ils se sont découverts un petit pouvoir, comme on se découvre un petit héritage, et, bon, ils en profitent, ils dépensent un peu. La source du pouvoir, ça peut être tout et n'importe quoi, et puis, on l'exerce où on peut. La société fermera les yeux sur ce petit écart de conduite, pourvu que ça ne se voit pas, que ça ne déborde pas, que ça ne crée pas une contagion qui pourrait elle-même être source de conflit. Il y a la déviation qu'on subit et celle qu'on décide. Le départ forcé ou les vacances qu'on pose à durée illimitée. On abdique ou on lutte. On décide que tout est fini ou bien qu'il faut que ça cesse pour qu'autre chose puisse enfin commencer. On devient fou ou alors insolent, immoral, jusqu'à ce que la justice appelle ça à devenir criminel. Dès que ça devient une affaire publique, alors là, plus question de rigoler. Ceux qui ont eu le culot de revendiquer leur départ avaient conscience de leurs actes. Il nous faut repenser la morale pour nous en construire une qui ne soit pas celle de la doctrine. Des gens, il y en a des tas qui déraillent, qui dérapent. Eh ben, je vais vous dire, je les absous. Je les absous pour le plaisir de cracher sur votre morale de curé, celle de la faute et de la punition. Et je crache sur la mienne avec, parce que je n'en suis pas encore débarrassée. Il y en a un qui avait envie de tout casser et qui tapait sur sa femme. Il y en a un qui avait envie de tout lâcher et qui a sauté par la fenêtre. Il y en a un qui supportait plus et qui a braqué quelqu'un dans la rue. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On peut toujours les réduire en bouillie parce que quand même ça se fait pas. On peut toujours leur couper les couilles et les envoyer en tôle pour leur faire passer l'envie de recommencer. On pourrait carrément les gommer, les effacer de la surface de la terre, une balle entre les deux yeux et on n'en parle plus. Même que ça serait mieux qu'on les détecte avant la naissance et qu'on s'en débarrasse avant qu'il ne soit trop tard. Ou on peut simplement se dire que souvent, par peur, par lâcheté, nous nous trompons de cible. Attaque directe des représentations de l'État, du capital, du pouvoir.
Répète, la violence penser ce monde et tous ceux qui le représentent.
Sur ND Chaîne 88.4 Radio Galère, c'était Rage Against the Machine, Knew Your Enemy, yeah. Et on continue l'émission avec un petit montage sur ce qui se passe au Japon.
Sans transition.
Sans transition aucune, c'est une émission sur l'actualité, voilà.
Ah, le diable contre l'enfer.
L'acte de naissance de la technoscience restera l'atomisation d'Hiroshima, symbole même de la puissance monstrueuse que la domination a acquise. Pour la première fois, elle disposait de moyens de destruction sans commune mesure avec ceux utilisés dans le passé. Depuis, le pouvoir de la technoscience n'a cessé de croître, à la mesure de l'empreinte indélébile qu'elle laisse sur tous les terrains qu'elle laboure. En quelques décennies, elle a accéléré la transformation de l'État en appareil de gestion, qui administre les individus comme des choses, et elle a eu des conséquences néfastes beaucoup plus profondes, plus globales et plus durables sur la vie humaine et non humaine que n'en ont eu des formes d'activité antérieures. Dans le monde à l'envers des représentations aliénées, la technoscience semble planer au-dessus de la société, alors qu'elle en est partie intégrante. Elle paraît dotée de pouvoirs surhumains, qui ne découleraient que d'elle-même, à l'image de ceux attribués à Dieu. Si nous avons choisi de continuer l'émission en parlant de la catastrophe de Fukushima, ce n'est pas pour verser dans un discours qui dénoncerait les dérives de la technologie, en oubliant trop souvent à quoi et surtout à qui sert le progrès. Revenons donc sur l'industrie du nucléaire, avec un petit montage réalisé par Basse Intensité, que vous pouvez retrouver en allant sur basseintensitéinternetdown.org. Et sur lequel est mis en ligne une émission complète consacrée au nucléaire.
Le nucléaire est assurément la forme d'énergie d'une société donnée. Toujours plus de consommation, de marchandisation, de transport, de technologie, de besoins suscités, dans le seul but d'alimenter un système économique et ceux qui en profitent. Cette boulimie ne peut se concrétiser sans promesse d'énergie durable. Le nucléaire est de celle-là, de celle que l'on nous vante comme pérenne, sûre et surtout incontournable. Il en est de même des alternatives éoliennes, solaires ou autres trouvailles qui, derrière une argumentation écologiste, ont d'autre but que de fournir cette boulimie. D'offrir une autre réponse à la perpétuation d'une société qui n'a de cesse d'en vouloir plus. Cette opposition entre les pro-nucléaires et les partisans des alternatives se réduisant alors à de pauvres débats d'experts économiques, scientifiques ou politiques, tous unis derrière cette prétention à vouloir fournir autre chose. Douce illusion d'une quête écologique qui ne saurait résister à l'ultime argument que serait la nécessité.
Pour autant, le nucléaire n'est pas une manière de produire de l'énergie comme une autre. Bien plus qu'un simple fournisseur, il induit de nouvelles formes d'organisation et de gestion des populations par l'État, ses auxiliaires et ses annexes. Il entérine encore un peu plus les formes d'organisation sociale, politique et économique existantes. Loin de la simple contre-expertise, le constat est à faire que l'apparition du nucléaire, civil ou militaire, pose de multiples questions quant à ses implications directes et indirectes. En effet, une société nucléarisée, pour exister, a d'absolues nécessités. Celles-ci sont économiques, scientifiques et militaires.
La première d'entre elles est que la mise en place d'une industrie sous-tend évidemment une forme d'organisation économique qui puisse permettre de disposer de main-d'œuvre, d'extraction de l'ensemble des matières premières, d'entreprendre de grands travaux de voirie, de construction, de pouvoir gérer des populations, etc. En bref, la misère et l'exploitation quotidienne. En cela, le nucléaire n'a rien d'exceptionnel.
La question militaire de la société nucléarisée prend tout son sens au vu des débats politiques et scientifiques autour des déchets, du risque et de la gestion de l'irradiation. Et c'est en cela que le nucléaire est spécifique. Les déchets, qu'ils soient enfouis, recyclés dans l'armement ou dans des projets de nouvelle énergie, restent une menace constante dont nul ne sait réellement ce qu'il est possible de faire pour s'en débarrasser ou les gérer durablement. Malgré les quelques accidents dans les centrales, le nucléaire et les risques qu'il induisait furent longtemps cachés, minimisés. Tout comme les risques d'irradiation pour toutes les personnes travaillant dans la mise en place et le maintien de cette industrie. Des gisements aux centrales, de leur construction à leur entretien. Depuis... ces risques n'étaient perçus que d'un point de vue militaire. Les irradiés n'étant alors que des victimes de guerre, et les populations exposées aux radiations dues aux essais de bombes nucléaires, dans le Pacifique, le Sahara, le Punjab ou ailleurs, de simples dommages collatéraux.
L'accident de Tchernobyl fut l'un des tournants dans la politique menée par les gestionnaires du nucléaire. Un temps nié, le risque devenait réalité, palpable par la dimension de la contamination, par l'existence d'humains en zone contaminée, par la gestion d'une survie et le confinement. Loin de calmer leurs ardeurs, les défenseurs du nucléaire mandatèrent une somme de scientifiques afin d'examiner la situation et d'en tirer des conclusions allant dans le sens d'une continuité des programmes nucléaires existants. Bien plus que faire accepter la simple présence du nucléaire, les nouvelles politiques en la matière se sont tournées vers le contrôle des populations exposées. Ces dernières années, les exercices de simulation se sont multipliés. Sous couvert de rassurer des populations potentiellement exposées, ces politiques visent à l'acceptation d'une vie en zone contaminée. Des hordes de scientifiques, de médecins, de militaires sont mobilisés. Les uns pour nous expliquer qu'il est possible de survivre et de continuer à vivre dans ces conditions, les autres pour nous faire comprendre, les armes à la main, que le choix n'est laissé à personne. Accepter une longue agonie ou être tué, accepter de continuer à être un des rouages de ce monde qui nous consume ou le quitter. Pas besoin d'aller en Biélorussie. Le projet de l'EPR à Flamanville prévoit l'inondation des marais alentours en vue d'un meilleur confinement des habitants de la région contaminés en cas d'accident. Simple sacrifice humain sur l'autel des choix économiques et politiques.
Le nucléaire ne peut exister sans une plus grande militarisation de nos vies, sans un plus large contrôle de l'État et de ses scientifiques sur notre existence. Il n'existe de critique du nucléaire sans remise en cause de la société qui le produit. Il n'existe pas de lutte contre le nucléaire sans destruction de cette société.
Ceci étant dit, la catastrophe sismique et nucléaire d'une ampleur inédite qui se déroule au Japon nous renseigne une fois de plus sur la manière dont les autorités cherchent à maintenir l'ordre en place dans ce genre de circonstances. Avant 1986, la possibilité d'explosion d'un réacteur nucléaire était une élucubration des opposants au développement des centrales. Après Tchernobyl, le risque est pris en considération et devient un outil de gestion et d'acceptation. La transparence, le contrôle des rejets polluants, le recyclage des déchets, l'administration des accidents, le management des sinistrés deviennent de nouveaux pans du développement économique. Chaque nouvelle catastrophe industrielle ou naturelle sert de prétexte à expérimenter de nouvelles règles de sécurité. On est ainsi passé de la société industrielle à la société du risque, dans laquelle l'État démocratique se présente comme le seul rempart face à la menace et s'assure ainsi la docilité des administrés. Le risque, quelle qu'en soit la cause, est un outil de contrôle des populations permettant d'asseoir une autorité légitime, car démocratique et protectrice.
Une fois la catastrophe arrivée, les experts et les nucléocrates se drapent du masque de la transparence et de l'information en temps réel, tentent de faire croire que l'on peut contrôler l'incontrôlable, que tout redeviendra à la normale avec des doses d'irradiation acceptables, et que l'accident, ce nouveau défi qui leur est lancé, permettra de tirer des leçons pour anticiper la menace et mieux se préparer pour les catastrophes à venir. Le monde et leurs laboratoires, nous en sommes des cobayes.
Ceci était un extrait de Fukushima à Alès, la gestion des catastrophes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte sur le Jura Libertaire à la page 5.
Devour me.
êtes toujours sur Anne des Chaînes 88.4 Radio Galère.
Bon voilà, et bon vent au talent japonais. Hein.
Et on continue cette émission sur l'actualité avec un peu de hors-sujet, mais qui n'en est pas vraiment.
Marseille 2013.
Marseille 2013.
Voilà, donc pas pour parler pas pour hors-sujet. Offensive, voilà, un trimestriel d'offensive libertaire et sociale. Ça coûte 4 euros quand même, et donc voilà, c'est le numéro 29. Et donc je vais juste reprendre une partie de ce journal que je vous conseille de lire, avec cette fois-ci un dossier sur le savoir pour s'émanciper, et avec un petit article sur la culture urbaine. Et pour le coup, c'est pas hors sujet, nous sommes à la friche, nous n'oublions pas, donc il est peut-être temps de défricher un peu le terrain. Et donc c'est les cultures urbaines au secours de la paix sociale. Et donc justement, comment définir culture urbaine? Alors on pense bien sûr au hip-hop, au DJ, au graffiti, au rap, au breakdance. Mais c'est bien plus large que ça, ça peut aller jusqu'au skateboard, le roller, le vélo acrobatique, le BMX, voire même le basket ou encore le slam. Si on écoute Wikipédia, donc on tend l'oreille, il semblerait que l'ensemble des pratiques culturelles, artistiques et sportives issues de l'espace urbain. Donc ça c'est la définition de Wikipédia. Mais si on en croit le magazine Graph Hit, ce serait plutôt le mode de vie urbain qui se développe en Occident durant les années 60 et 70 qui va faire apparaître de nouveaux rapports entre le citadin et leur environnement. Une réalité sociologique et de nouvelles morphologies des villes vont amener les populations, souvent les jeunes, à s'approprier ces territoires comme un nouveau terrain de jeu. Dans tous les cas, pour l'instant, on est toujours dans le jeu et le loisir. Savoir que le terme est apparu dans les circulaires administratifs, ce qui est déjà beaucoup moins drôle, dans les années 80-90, avec le dispositif du contrat de ville, un contrat entre l'État et les collectivités locales, mis en place grâce à notre très cher ami socialiste Lionel Jospin, qui, sous le couvert de lutte contre la ségrégation urbaine et sociale, consistait en fait à calmer le jeu dans certains quartiers jugés trop agités. Encore une fois, on voit une espèce de mélange entre culture et urbanisme, et qui fait arriver par dire la culture urbaine. Comment être plus clair ? Voilà, une culture urbaine triée, rationalisée, institutionnalisée, professionnalisée, notamment les pratiques dérangeantes et pour garder le contrôle de la ville. C'est super bien foutu. On va d'ailleurs en profiter largement avec Marseille 2013. Voilà, donc voilà, point en l'air, la culture urbaine relève d'une stratégie de communication pour évacuer toute dimension politique, même le point en l'air. Donc ça, c'est une culture de loisir. Voilà, dans ces visions bien ordonnées, les pratiques se développent de manière sauvage, les pratiques qui se développent de manière sauvage sont intolérables. Il s'agit donc de les fixer en des endroits précis, légal, normalisé. Et eux, ils précisent éventuellement lucratif. Je pense que le éventuellement n'était pas forcément nécessaire. C'est pour ça qu'on peut les retrouver avoir nommé des experts en culture urbaine au sein des DRAC. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la DRAC, c'est la Direction Générale des Affaires Culturelles. En général, l'art contemporain, ils vendent ça à un bras. Et ils sont là, eux, chargés de dialoguer avec les artistes et à contribuer à la promotion, bien sûr, des meilleurs d'entre eux. Alors, les meilleurs d'entre eux, je ne sais pas ce qu'on peut en penser quand on voit ce qu'on nous fait voir. Mais dans tout cas, dans pas loin de voir une espèce de... bientôt, une espèce de Peugeot hip-hop festival ou un Jam Graffiti L'Oréal. Enfin, voilà. Donc, tout ça, effectivement, bien, bien mélangé à leur business. Ainsi, le tag considéré autrefois comme une nuisance, alors que l'invasion publicitaire qu'on subit tous les jours peut s'exprimer bien tranquillement. Et ben voilà, tout le principe des cultures urbaines consiste donc à ingérer des pratiques considérées comme intéressantes, dans tous les sens du terme, mais trop épicées, et les digérer à grand renfort de suc normatif pour enfin les régurgiter en une flaque aussi colorée que puante, mais acceptable. Ça, c'est Dixit offensif, comme quoi des fois... ça peut être une écriture sympathique. D'un coup, la matraque magique, ça j'aime bien aussi, il n'y a ni antagonisme, ni domination, ni répression, comme si racisme et classisme ne planaient pas en permanence sur le rap, et comme si les taggeurs, taggeuses, pris en flagrant délit, n'étaient pas pour le coup condamnés. Voilà, donc avant tout, de nous faire adhérer à un système que nous subissons, cela permet aussi, en dépolitisant les débats, de désamorcer les conflits, et par là, de maintenir la paix sociale. De cette manière, les kilos de bons citoyens tombent dans le panneau, croyant s'engager pour la collectivité. Et en effet, elles font insidieusement, mais pleinement, le jeu du pouvoir, c'est-à-dire le maintien de l'ordre. Et les moutons sont bien gardés. Quand on cerne alors les enjeux de cette question, l'endroit où l'on peint, le concert auquel on assiste, la façon dont on fait un disque, ne peuvent plus apparaître comme des décisions dérisoires. Car si on pense que ce monde mérite d'être retourné de fond en comble, chaque choix est important. parce que nous ne voulons pas que nos micros, nos aérosols, nos stylos et tout ce qu'on voudra bien manier pour s'exprimer ne servent qu'à divertir, faire le spectacle et décorer le carnage. Là-dessus, ND Chaîne est 100% d'accord, nos micros ne serviront pas à ça. Voilà, c'était dans Offensive, le journal libertaire et social. Donc, je vous invite à lire. Et là-dessus, musica.
Le problème fondamental, c'est quand vous réduisez une personne à l'ensemble des renseignements que vous pouvez obtenir sur elle, indépendamment de ce qu'elle est, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle est en tant que personne et sujet.
Comment faites-vous avec ceux qui refusent ? Ça n'arrive pas, ou presque. Personne ne déroge à la règle,
Enquête alliée, parce qu'ils aiment nous voir cloisonner. Chacun dans son milieu à polir ses serveurs grippés. Je bérore sur ces murs qui nous séparent, mais ne perds pas le nord. Pour l'heure, j'entretiens lire et reste enquête alliée. Enquête alliée. En plein milieu, jongler sans faire, gagne entre code et réputation, mondanité et autogestion. Bardé de patch, soyons honnêtes, je ne fais pas tâche. Mais revois leur tête à l'écoute du mot métal. Et ce qui compte, c'est l'étiquette et pas le texte. Classe d'oiseau mort comme du creuse dans Christ, mes mots de chronique en distro. On pratique le hip-hop en artisan, par choix et par haine des marchands. On pique le DIY au punk et l'applique au rap. Quand les poseurs fuient avec, tâte la notion de politique. Avec la modestie de n'abattre aucune barrière, on constate l'étanchéité des cloisons et le confort molletonné. Des huis clos de révolte, de pauvres mythes en petites élites. On se contente de lutte en dilettante, tentée par l'alliance sacrée. Chacun est scotché à son clocher. Et les curés de chaque secte me débectent. Ils font jeu des ministères. La division plaît en haute sphère. On l'alimente de termes foireux, d'anarcho-autonome en jeune de banlieue. Je pourrais sortir de mon personnage tout en gardant mes convictions. Gratter une page sans jargon, fixer des buts sans prétention. Je cherche à compoter sans amarre, mais quelques chaînes gênent le départ. En pleine ligne de mire, je veux pas d'entente cordiale, à mi-chemin entre tes idées et les miennes. Le juste milieu pour ne pas trop brusquer l'autre. L'éternelle querelle entre l'ordre et la révolte. On agit sans mode d'emploi et on se franchement au milieu de trop de balises. Je ne vise pas mais aiguise mes mots à défaut de comprendre. Je crache sur tes préjugés, j'ai classé les gens par ordre de méfiance. Je reste muet, préférant ne rien avoir à prouver à personne. Puisque tout est critiquable, puisqu'on se bat tous dans le même sac. Parlons d'ado crochu, ouais. Chacun se protège, à quoi avant d'être mordu. Toujours le cul entre deux chaises, j'ai jamais l'uniforme adéquat. La mode selon le climat, je vais quand même pas me saper comme toi pour que tu me considères. Qu'on ne parle pas de tolérance ou d'ouverture d'esprit, c'est en fermant les yeux que tu me dévisages. Prenant pour vérité le seul cliché de ton expérience, arrimé à nos quelques certitudes. Avec élégance, on peine à lâcher prise. Avec l'habitude de toujours se croiser sans jamais se frôler, de se parler sans jamais se comprendre. Puisqu'il n'y a pas d'Eldorado livré clé en main, on cherche sans cesse avec qui comploter. Parce qu'à plusieurs ça devient supportable. Du concret c'est ce qu'ils veulent, que leurs idéaux restent intacts. Que chaque étiquette soit à sa place. Chaque marque pour chaque produit, chaque milieu pour chaque personne.
Enquête alliée, parce qu'ils aiment nous voir cloisonner. Chacun dans son milieu à polir ses serrures grippées. Je perrois sur ces murs qui nous séparent, mais ne perds pas nord. Pour l'heure j'entretiens lire et reste enquête alliée. Enquête alliée.
À 22.88.4. Tout ce qui est mauvais est bon pour la jeunesse. Voilà. Ce sont les jeunes que nous gavons de nourriture empoisonnée, trop sucrée, trop grasse, trop salée. Ce sont eux qui vivent au mieux des écrans, ceux de leur téléphone portable, de leur ordinateur, des jeux vidéo et de la télévision. Toute la merde. Très bien. Donc voilà. Et si le diable était contre l'enfer, alors on entend Dieu est grand, Dieu est amour, nous dit-on. Et encore aujourd'hui, certains meurent d'y croire. Mais croient-ils en Dieu ou en la grandeur de l'amour ? Mais pour sûr, ils croient et sont prêts à en mourir. Pour a priori vivre une vie meilleure là-haut, quitte à supporter le pire ici-bas. Et donc dans tout ça,
malgré les guerres et les haines, l'on peut voir beaucoup d'amour. Non pas l'amour de Dieu pour tous ces hommes en péril, mais l'amour de tous ces hommes pour Dieu. Alors oui, ils ont la foi, et ça fait d'eux des fidèles. D'une personne intouchable, d'une idée incroyable, d'un concept incontestable. Et pourtant, fervent et courageux, convaincu et vainqueur, prêt à se battre. Alors comment tant de ferveur et de courage? Comment autant d'amour gâché? Comment convaincre que mieux que l'amour de Dieu et son paradis céleste, il y aurait l'amour des autres, l'amour de soi, d'un paradis sur terre? Où la foi serait devenue conviction, avec des gens, des idées, des concepts, touchables, croyables et contestables. Et tout ça dans l'amour du grand communisme. Alors avant Dieu, la liberté, avant la religion, la révolution. Salam anarchie, communiste wakbar. Yallah. Alléluia.
Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau. Me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie. Que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant,
à la semaine prochaine,
s'enchaîne. Milliards d'humains, 10% possèdent 90%, 1 milliard de crèvent la faim, 1 personne sur 10 en France, 4 milliards prisonniers du travail, 30% d'inactifs punis, 10 millions d'incarcérés dans le monde, 65 000 détenus en France, 200 000 personnes sous le coup de la justice en France, 3 millions de chômeurs, 50 milliards de trous de la sécu, ou 35 milliards, 60 milliards. Où sont mes fiches, bordel, attends. 4 000 satellites tournent au-dessus de nos têtes pour 200 000 milliards de dollars. 400 millions de caméras de surveillance scrutent le monde. 3 milliards d'internautes surfent sur place. Google m'affiche 9 366 240 pages en 0,32 secondes. Avec mon ordi de merde en plus. 400 000 milliards de méga giga octets secondes dans le monde. Des chiffres en perdent la tête.
tellement de chiffres pour n'en retenir aucun. Ou alors peut-être un seul. 1984, George Orwell, Brésil, Soleil Vert, Terminator, Matrix, Ravage, le meilleur des mondes. Des dystopies, en veux-tu, en voilà, pour mieux se dire que cela ne nous arrivera pas. Des dystopies. À rappeler qu'une utopie, c'est quelque chose dont on rêve et qui, a priori, on ne vivra pas. Une dystopie est quelque chose que l'on cauchemarde et qui, a priori, arrivera. Fukuzawa, arigato. Et on nous prend pour des fous de dire que la démocratie est capable du pire à défaut d'avoir jamais montré un quelconque meilleur. Alors nous rêvons, oui, nous rêvons. Et pourtant, ils voudraient nous faire passer pour votre cauchemar. Alors quand j'ouvre les yeux, ce n'est pas l'insurrection que je vois venir, mais bien une catastrophe. Et elle est là. Et cela n'a rien de mystique. Pas plus que la logique incontournable d'un cycle. C'est bel et bien leur choix pour le monde à venir. Des caméras partout, des prisons pleines, des flics et des matons, du travail obligatoire, de la guerre économique, organisation militaire, contrôle généralisé, pucé, téléguidé, compté, numérisé, comme du bétail. Chacun sa place, chacun sa classe. Alors nous tremblons et tentons encore de respirer. Nous tremblons d'un régime d'hier, avec les capacités informatiques d'aujourd'hui et les quantités de nuisances militaires de demain. Nous tremblons à l'idée que ça donne du monde à venir.